BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Évidemment, on va revenir sur l'impact économique et boursier du coronavirus. On en a parlé ce matin, bien sûr, avec le gouverneur de la Banque de France. On va en parler dans un instant avec Didier Saint-Georges, membre du comité stratégique de Carminac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà là ce matin, on va tout dire hein, dans Good Morning Business. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les déclarations de François Villeroy de Gallo, de Bruno Le Maire, et puis aussi les prévisions de l'OCDE, où on voit que l'impact est quand même assez fort sur les prévisions économiques. Je recevrai aussi Jean de Kervazdou, et c'est l'ancien patron des hôpitaux de Paris, économiste de la santé, sur est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, et puis surtout, est-ce qu'il y aura un médicament, un vaccin éventuellement pour lutter contre cette épidémie, puis le nombre de personnes qui pourraient être touchées. Puis ensuite, lui, il est président de Veolia, bien sûr, mais il est aussi président de l'Institut d'entreprise. Antoine Frérot sera avec nous à partir de 12h30. Je demanderai qu'est-ce qu'attendent les entreprises, notamment de la part du gouvernement. Pour l'instant, c'est Audrey Maubert qui nous apporte toute la actualité. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et justement, on reparle du coronavirus qui a passé le seuil des 3000 morts dans le monde. Une crise qui a déjà coûté 1 milliard d'euros par mois depuis janvier à l'industrie touristique européenne, a assuré ce matin Thierry Breton sur BFM TV, le commissaire européen au marché intérieur. Les touristes chinois désertent l'Europe. Thierry Breton qui a par ailleurs évoqué un risque de récession en Allemagne et en Italie. L'OCDE abaisse à sa prévision de croissance mondiale à 2,4% en 2020, soit le taux le plus faible observé depuis 2009. L'OCDE tablait encore en novembre sur 2,9%. Une épidémie de grande ampleur pourrait provoquer une récession au Japon et en zone euro, estime l'organisation. Face au coronavirus, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, votre invité ce matin, Edwige, dans Good Morning Business, appelle à garder la tête froide, réfutant tout parallèle avec la crise de 2008. La politique monétaire, déjà très accommodante, est adaptée a-t-il martelé, avec deux stabilisateurs clés dans cette crise. On l'écoute.
Le premier stabilisateur automatique, c'est que nous, Banque Centrale, nous fournissons des liquidités abondantes et à des conditions très favorables aux banques pour qu'elles-mêmes puissent financer les entreprises. Et ça va être très important dans les jours et semaines qui viennent, en particulier pour financer les entreprises, les PME. Le crédit aux PME est heureusement dynamique en France, qui sont solvables, mais qui ont des difficultés temporaires de trésorerie. Et ce qui est une situation probablement qui va être assez fréquente. Ça, c'est le premier stabilisateur automatique. Le second, alors pardon d'être un peu plus technique, c'est ce que nous appelons notre forward guidance, c'est-à-dire l'indication que nous donnons sur l'évolution future des taux d'intérêt. Nous avons dit très clairement, depuis septembre dernier, que les taux d'intérêt resteraient bas et donc les conditions de financement favorables pour les entreprises aussi longtemps que la situation économique le justifierait.
François Villeroy de Gallo sur BFM Business. Des marchés qui tentent d'avoir la tête froide aujourd'hui, comptant sur les banques centrales, notamment la réaction de Jerome Powell la semaine dernière. Nous utiliserons nos outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie, a assuré le patron de la Fed. L'Italie prévoit des mesures d'aide de 3,6 milliards d'euros. Le Japon devrait annoncer prochainement un nouveau plan d'urgence. Les places asiatiques ont rebondi ce matin. Le Nikkei a gagné près de 1%, plus de 3% du côté de Shanghai et Shenzhen. Du côté du CAC 40, eh bien, le rebond n'a pas tenu, moins 0,44% à l'heure actuelle à 5 286 points. Enfin, un dernier mot dans les valeurs à suivre aujourd'hui. Par ailleurs, Rally, le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de sauvegarde de la holding maison mère de Casino, un plan rééchelonnant sa dette.
Merci Audrey, bien sûr, on vous retrouve à 12h30 pour faire un nouveau point dans un instant. La question du jour, c'est est-ce qu'il faut garder espoir ou pas? On voit ça tout de suite avec Didier Saint-Georges de Carminac.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Didier Saint-Georges, merci d'être avec nous, donc membre du comité stratégique de Carminac. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce matin. Je lui disais des déclarations de Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque Centrale. Ici même, il y a Bruno Le Maire aussi, l'OCDE, et puis les marchés qui avaient envie de reprendre confiance. Là, on voit une petite baisse, notamment sur le CAC 40. Est-ce que vous avez perdu tout espoir d'un rallye ou pas du tout? Il y a un petit krach boursier, une correction boursière que tout le monde attendait parce que les arbres étaient presque montés jusqu'au ciel?
Oui, alors il y a un petit peu de tout ça.
Exactement.
Peut-être que le mot le plus important, le plus intéressant qui vaut la peine d'être creusé, c'est le mot trajectoire. parce qu'il y avait effectivement une trajectoire boursière qui donnait l'impression de monter jusqu'au ciel. Alors cette trajectoire-là, elle était excessive et il lui fallait un alibi pour se corriger. Maintenant, sur le plan économique, je vois bien que l'OCDE profite pour revoir un petit peu à la baisse ses estimations. Mais l'important, c'est la trajectoire. C'est-à-dire, est-ce que l'on a une espèce de ralentissement généralisé ?
Parce que, non, mais est-ce que tout le monde en profite, justement ? C'est-à-dire que les investisseurs comme vous, vous en profitez pour prendre un peu de bénéfices. Est-ce que les organismes comme l'OCDE étaient trop optimistes, donc ils en profitent pour rectifier ? J'aime bien votre mot « profite ».
Non, c'est le mot « trajectoire », surtout, oui, parce que quand on applique maintenant aux politiques, et vous citiez Bruno Le Maire tout à l'heure, là, les politiques sont dans cette situation où ils sont obligés de montrer à l'opinion publique qu'ils n'ont pas la main faible et qu'ils agissent de manière très très forte. Et ça, naturellement, c'est autoréalisateur, puisque ça gèle l'économie, ça gèle les investissements, etc. Et donc, on a quelque chose qui s'oriente véritablement vers un coup de froid très fort. On a vu ce que ça a donné sur les deux derniers mois. Donc, on a quelque chose qui va aller de la même manière. Donc, on va avoir un coup de froid très fort. Et dernière variante du mot trajectoire, c'est quand vous regardez la trajectoire de la propagation du virus elle-même, c'est une propagation virale classique, c'est-à-dire très forte à l'accélération d'abord, ralentissement ensuite, etc. En Chine, on est clairement aujourd'hui dans la phase de ralentissement. Mais il faut garder à l'esprit, et c'est pas une bonne nouvelle, mais qu'en Occident, en Europe, et a fortiori aux États-Unis, on aborde tout juste la phase d'accélération. Alors même si elle se termine, ce qui est quand même le plus probable, par une décélération, un plateau et une redescente derrière, comme c'est déjà le cas en Chine aujourd'hui, il faut bien le garder en tête, c'est même le cas déjà à Singapour et en Corée, même si les chiffres sont encore importants, ça veut dire quand même que selon toute probabilité, de manière presque... on va avoir des chiffres jours, les prochaines semaines. Il faut juste le savoir parce que psychologiquement, il est clair que ça aura un impact sur les marchés.
Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que ce virus, il est le Covid-19, pour reprendre la terminologie exacte, il est presque plus fort, important sur son impact sur les marchés, sur l'économie, que sur les humains. Où certes, il y a quand même des gens contaminés, mais je veux dire, après tout, c'est une très grosse grippe, quoi.
Oui, alors faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême inverse, mais vous avez raison. Je pense qu'il y a une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas inintéressante. La région de Hubei, qui est quand même autour de l'épicentre du problème. Population de la région à peu près la même que la population française, 60 millions d'habitants à peu près, avec un taux de mortalité très élevé, parce que effectivement dans les premières semaines, il y a une contagion absolument directe de Wuhan à toute la région. On arrive à 2,9%, je crois, de taux de mortalité aujourd'hui, ce qui est vraiment un taux très élevé. En dehors de la région de Hubei, c'est 0,4%. Donc, taux de mortalité très élevé sur une population similaire à la population française. Résultat, aujourd'hui, environ 3000 personnes sont décédées. Alors, est-ce que le chiffre est très important ? Dans l'absolu, oui. Maintenant, si vous le comparez au nombre de victimes en France de la grippe chaque année, c'est en moyenne 10 000 personnes.
Donc, vous avez raison. Oui, c'est pour ça, c'est 10 000 personnes. On en est très, très loin sanitaire. Si on prend l'exemple de l'Hexagone.
Mais imaginez bien que ce discours-là n'est absolument pas possible pour un homme politique. Oui. Ça ne serait pas recevable. Un homme politique est obligé de montrer qu'il prend toutes les mesures de l'importance de la chose.
Et du reste, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a vécu ça en direct de ce matin entre le gouverneur de la Banque Centrale, qui était notre invité. Il y avait Thierry Breton, qui était l'invité de BFM TV. Le commissaire européen qui disait que ça a déjà coûté 1 milliard pour le tourisme européen. C'est pas énorme, parce que le tourisme européen, le tourisme français, ça aurait été un impact énorme. Le tourisme européen, c'est pas forcément ça. Et puis Thierry Breton en disant, Bruno Le Maire qui disait donc qu'il y a un impact très significatif. Donc on voit bien, le gouverneur, il faut garder la tête froide, et puis les politiques, effectivement, qui sont obligés de dramatiser un peu.
Et oui, ce serait un suicide politique vous, de minimiser le problème.
Oui, mais vous êtes un des grands acteurs sur les marchés, Didier Saint-Georges, chez Carmignac, vous êtes comment ? Vous avez la tête froide, ou alors vous vous dites, j'en profite pour prendre mes bénéfices, ou là là, où je me prémunis contre une récession qui peut arriver ?
Alors, là aussi, il y a plusieurs options.
Oui, il y en a trois. Donc,
mais précisément, il faut faire attention, parce que si vous êtes le seul à avoir la tête froide et que tous les marchés paniquent, vous êtes écrasé par le troupeau. Oui. Donc, il faut essayer, non pas seulement d'être plus intelligent que les autres, mais essayer d'anticiper la façon dont peut réagir la majorité des gens. Or, j'insiste sur le fait que, séquentiellement, il y a de fortes chances que les les statistiques empirent en Europe et surtout aux États-Unis. Vous savez que c'est une fonction du nombre de tests, hein, pour pouvoir savoir combien il y a de personnes infectées, il faut faire les tests. Or, les tests ont à peine commencé aux États-Unis. Ils n'ont fait que quelques centaines. Donc, vous imaginez bien que statistiquement, les chiffres vont s'aggraver dans les prochaines semaines. Donc, toute cette espèce de psychose va forcément pas particulièrement s'améliorer. Alors, en termes d'action, d'investissement, si j'ose dire, première chose, ne pas essayer de retenir à soi seul la masse du troupeau qui s'inquiète. Mais en revanche, et c'est le point essentiel, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, on était arrivé en tout début d'année, fin d'année dernière, une espèce d'euphorie générale.
Ah oui, on a l'impression que rien ne pouvait vous ébranler. Et puis là, ça y est, on a enfin trouvé notre signe noir. Enfin, vous avez trouvé.
La panique, elle est un petit peu l'effet miroir de l'euphorie. C'est-à-dire que ça part d'une réalité et qui simplement ensuite est montée à des niveaux extrêmes par anticipation, soit du meilleur, soit du pire. On a un petit peu l'effet reflet là, de l'euphorie de fin d'année dernière.
Oui. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs, on voit bien, on a parlé du tourisme, il y a le luxe évidemment, il y a les transports, il y a des secteurs qui sont directement impactés, très impactés. Est-ce que pour vous, ça a aussi un impact? Vous êtes très vigilant sur le type de secteur où vous pouvez évidemment investir.
Ça, vous avez raison, c'est absolument essentiel. Il y a une partie de l'activité qui va prendre un coup de frein absolument très très court terme, mais qui sera rattrapé ensuite. On peut penser que sur les secteurs de biens durables, bien ce qui n'est pas acheté aujourd'hui peut quand même l'être dans quelques mois. Et en revanche, une activité de service, restauration, hôtellerie, etc., qui elle ne va pas être rattrapée. Et là, vous avez raison d'insister sur le choix sectoriel. C'est parce que, comme je le disais ce matin, si vous avez en portefeuille des secteurs dont le modèle économique vous permet de raisonner sur 5 ans, 10 ans, avec une propension à croître qui n'est pas dépendante du cycle économique, imaginez l'e-commerce, il est presque favorisé par ce type de phénomène qui vous permet d'aller acheter ce que vous voulez sans avoir besoin d'aller dans les grands magasins, etc. Donc vous avez une logique sectorielle, vous avez raison, qui est absolument essentielle. Je pense qu'économiquement parlant, l'OCDE peut très bien avoir des chiffres très globaux de croissance, mais vous allez avoir des divergences absolument considérables selon les secteurs. Imaginez dans les matières premières, l'énergie, là le coût de frein est considérable.
Oui, le pétrole, oui.
Voilà, ouais. Alors que si vous
l'automobile, êtes... L'automobile, en Chine.
Bien entendu. Donc, si vous êtes à contrario dans des secteurs de croissance, la pharmacie, les biotech, etc., la technologie, j'irais au sens large, vous n'êtes pas forcément du tout amené à réviser vos perspectives de croissance à moyen terme.
Didier Saint-Georges, qu'est-ce que vous allez surveiller là ? C'est-à-dire, parce que quand vous posez la question au gouverneur, il vous dit... Attention, les médecins aujourd'hui sont beaucoup, pour l'économie, les médecins sont beaucoup plus importants que les banquiers centraux. Ça veut dire que c'est la durée de cette épidémie qui va déterminer ensuite l'état de l'économie en sortie de crise. J'imagine que vous êtes assez d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous surveillez comme clignotant ? Qu'est-ce qui fera que tout d'un coup vous allez devenir bullish ou au contraire vous allez retenir ?
Alors. En effet, il y a la propagation de l'épidémie elle-même, et là, on est complètement passif à regarder les chiffres. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Les chiffres ne vont pas être bons dans un premier temps. Je pense que ce que l'on va regarder avant tout, c'est la façon dont la Chine, qui, si je puis dire, a 2 mois d'avance sur le reste du monde, s'y prend pour relancer son économie. Est-ce qu'ils mettent le paquet, quitte à recréer des déséquilibres nouveaux, ce qu'ils avaient souhaité ne pas faire, ou est-ce qu'ils se
disent... Ça fait le Japon, ça fait un peu l'Italie.
Oui, donc il y a vraiment là une espèce de faisceau de contraintes. Un certain nombre d'entre elles, vraiment, sont un peu... Pour les banques centrales, et les contraintes sont considérables. Hein, on ne voit pas très bien comment, en mettant des chiffres, des taux négatifs encore plus bas,
ça relancerait l'économie. Il y a un petit peu de marge de manœuvre, si on en croit.
Voilà, un petit peu de marge de manœuvre, mais ce n'est pas ça qui va relancer l'économie mondiale. En revanche, la locomotive traditionnelle, la Chine, qui en 2012, en 2016, même en 2009 d'ailleurs, avait été vraiment la fer de lance de la relance, c'est la grande question. Et aujourd'hui, c'est pas évident du tout que la Chine puisse ou souhaite mettre vraiment une sorte de politique bazooka qui relancerait la croissance globale. Donc, on peut avoir une sortie de crise vraiment de manière très lente, qui ne soit pas une reprise en V, mais beaucoup plus une reprise en U, voire en L. Ouais.
Donc pour vous, le bazooka, il sera quand même important. Hein.
Bah, oui,
en Chine, mais peut-être aussi en Europe, voire
décisif,
en France.
Décisif, mais ouais. je crains que le bazooka ne soit pas très puissant, parce que les marges de manœuvre, même de la Chine, sont devenues relativement limitées. Donc probablement une sortie, je dirais, en douceur. C'est pour ça que si on revient au plan sectoriel, je crois qu'il ne faudra pas être investi sur des secteurs qui ont besoin d'un bazooka pour se relancer, qui ont besoin d'une accélération ouais. économique, au contraire des secteurs beaucoup plus hermétiques au risque de ralentissement économique.
Et vous, alors je ne vous demande pas de jouer à Madame Irma ou Madame Soleil, comme vous, mais est-ce que vous prévoyez une semaine aussi noire que la semaine dernière ou pas?
Je pense que l'instabilité va continuer. Alors, la semaine dernière a été un record historique de baisse sur une très courte durée. Donc, il y a des forces de rappel qui se créent immédiatement, mais qui vont probablement pas être très convaincantes. Encore une fois, parce que l'agenda de l'actualité des statistiques de santé va pas être bon. Donc, je pense que les marchés vont rester très 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 instables dans l'immédiat.
Oui. Donc ça, c'est ça va être un petit peu difficile. Est-ce que quels sont les marchés qui vont être les plus impactés, vous pensez? Parce qu'on a vu le pétrole a été très impacté, les actions d'une manière très différenciée.
Ouais. Alors,
reste les obligations, tu vois. Ouais, l'or, tiens, c'est incroyable. Flambée incroyable. Hop, aujourd'hui, au contraire.
Alors, c'est pas incroyable, mais c'est vraiment intéressant.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qu'il y a eu la semaine dernière, cette vitesse de baisse des marchés, c'est un phénomène presque de liquidité. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui étaient exposées au marché se retrouvent d'un seul coup à devoir, notamment dans les marchés dérivés, satisfaire les appels de marge. Et pour ça, ils liquident les positions les moins liquides. Et l'or a beaucoup de qualité, mais il n'est pas liquide. Et donc, ils ont liquidé leur position en or pour pouvoir honorer les appels de marge. Ouais. Ça ne retire pas, et c'est très important, ça ne retire pas en tendance, si on reste sur plusieurs mois et fortiori au-delà, ça ne retire pas les vertus de l'or.
Rapidement, ça y est, j'ai retrouvé ma question. C'est pas le même scénario que 2008, hein, on est bien d'accord?
Voilà, la grande différence, ouais. C'est que ce n'est pas le résultat de déséquilibre économique qui amène à une
financier.
Crise, et auquel cas c'est extrêmement difficile de s'en sortir, et on le voit bien depuis 10 ans. Là, on est quelque chose qui est beaucoup plus similaire à un choc externe, un attentat, un choc sismique, qui a des impacts immédiats très très forts, mais qui ne remettent pas en cause en soi la tendance économique.
Merci beaucoup à Didier Saint-Georges d'avoir été avec nous, membre du comité stratégique de Carmignac. Dans un instant, c'est Jean de Kervazoué, l'ancien patron des hôpitaux de Paris, qui est titulaire de la chaire justement économie de santé au CNAM. Avec lui, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui peut se passer, cette épidémie, combien de temps elle va durer, combien de personnes touchées, bref, est-ce que les hôpitaux sont prêts à accueillir tout ce beau monde? On voit ça pour l'instant, une petite page de pub.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean de Kervazoué. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien directeur des hôpitaux de Paris. Et vous êtes titulaire justement de la chaire économie et gestion des services de santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, au CNAM, comme on dit. Jean Kervazoué, beaucoup de questions à vous poser. La première, c'est, à votre avis, combien de personnes vont être contaminées? Parce que là, on vient d'apprendre, ça y est, ça se rapproche de Paris, c'est à Montreuil. Là, je parle pour la France, mais vous voyez quoi? On dit 5, 10 millions, si on voyait votre collègue hier dans une interview au Journal du Dimanche?
Alors, à ce stade, il y a deux hypothèses. Une pessimiste, qui est celle que vous indiquez, et une optimiste, qui est de se baser sur les chiffres chinois actuels. Alors, supposez qu'ils soient exacts, mais quand vous faites ce que l'on a fait avec un ami, vous placez le nombre de nouveaux cas par jour, vous voyez que c'est en train de s'arrêter.
Ah, d'accord. OK.
Et donc on a un phénomène qu'on a connu pour les deux autres zoonoses, vous savez, qui était le SRAS, où il y a en 2003. Puis il y a eu le MERS, c'est une maladie des chameaux qui a été en Arabie Saoudite, puis au Canada. Et dans les deux cas, ça s'est arrêté.
D'accord. Alors, donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle que vous nous apportez. C'est-à-dire, mais ça rejoint sur le plan économique, bizarrement, un peu ce qu'a dit ce matin l'OCDE pour ses prévisions économiques, en disant que le pic pour eux était premier trimestre, mais qu'après, on était plutôt dans une décélération graduelle. Donc,
Alors, ça, c'est l'hypothèse optimiste, mais elle n'est pas confirmée. L'hypothèse pessimiste est très pessimiste. C'est l'hypothèse qui est sortie dans The Economist de cette semaine, d'avant-hier, qui disent qu'entre 25 et 70% de la population mondiale sera atteinte par le virus. Alors, on va prendre le chiffre bas, 25%, ça fait 2 milliards d'êtres humains. Et que la seule chose que l'on puisse faire, c'est retarder l'épidémie de façon à ce que l'on puisse avoir un vaccin, mais pas avant le mois de septembre, qu'on puisse avoir des médicaments. Et donc, dans ce cas-là, le nombre de personnes infectées en France, si on se base sur les Chinois, parce que la population de l'agglomération de Wuhan, c'est en gros la population française, donc c'est 60 millions d'habitants. Donc c'est de l'ordre de 1250.
Et pour vous, alors en même temps, ça serait, enfin, si vous aviez la science infuse, Jean Cavazzo, dans le sens où c'est compliqué. Mais vous êtes plutôt sur quel scénario? Plutôt sur le premier scénario, d'après ce que j'ai cru percevoir?
Non, mais ce premier scénario n'est pas impossible, il est intéressant de l'évoquer.
Plus optimiste.
Et je doute qu'il y ait un quart de la population mondiale atteinte des porteuses du virus. Oui, ça, j'en doute. Oui.
Est-ce que les mesures de confinement ont été suffisantes? Et là, je me tourne presque plus vers la France. Moi, j'étais très frappée quand je posais, pas plus tard qu'il y a une semaine, la question à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ou même Jean-Marie Djebbari, ministre des Transports, qui disait, mais attendez, voilà, il y a des processus. Enfin, bon, voilà, dans les tiroirs, il y a les marches à suivre, mais c'est tout. Et puis, on a bien vu que deux jours après, une journée après, hop, ça s'enflammait.
Alors, je peux vous répondre autrement en vous disant que moi, si j'avais été
ministre
en poste de responsabilité, j'aurais fait ce qu'ils ont fait.
Ah voilà. D'accord. Donc ils ont fait ce qu'il fallait.
Ils ont fait ce qu'il fallait, mais de toute façon, vous savez, ça c'est les arguments notamment de Mme Le Pen. Quand on prend toute l'histoire de toutes les épidémies, on n'a jamais pu les contenir.
Ah oui.
Voilà. Et les frontières n'ont servi à rien. Là, ce qui a été dit par mon collègue Salomon, directeur général de la santé, est tout à fait juste. C'est-à-dire que la politique n'est pas la même selon l'endroit où on se trouve. Donc, si on se trouve à Creil, ou on s'y trouve dans les Alpes, c'est pas la même politique qu'à Paris.
Et pourquoi?
Parce que le nombre de personnes potentiellement atteintes n'est pas la même, tout simplement.
Est-ce qu'on a entendu Martin Hirsch, donc le président de la PHP, que vous connaissez bien, qui a dit qu'il y a un peu un changement stratégique du côté des hôpitaux, parce qu'avant on disait il faut toute personne malade, à la limite, hop, elle arrive à l'hôpital. Et là, au contraire, c'est de dire « restez chez vous ».
Non, ça, toute personne. Il faut surtout pas que les personnes malades aillent à l'hôpital.
Mais c'est un changement stratégique au départ.
Oui et non, parce qu'on connaît ça aussi depuis la grippe du temps de Madame Bachelot. Quand elle a réuni les gens pour se faire vacciner, elle a propagé le virus. Moi, j'ai eu deux petites filles qui ont été contaminées en allant se faire vacciner. Les seules qui ont bien réagi à cette époque-là, ce sont les militaires qui ont dit vous restez chez vous, etc. Parce que quand on regroupe la possibilité de transmission.
Ouais.
Donc, ce que dit la paix de Paris à juste titre, c'est vous restez chez vous, simplement si ça s'aggrave, vous appelez le SAMU et à ce moment-là, on vous guide dans une trajectoire précise à l'hôpital, qui n'est pas la trajectoire de tout le monde. Parce qu'il faut que les hôpitaux... Attendez, on a en France, aujourd'hui, 8 décès... non, 8 personnes en soins intensifs.
Oui.
8 personnes en soins intensifs. Bon, c'est très très peu. Et donc, vous allez me demander si les hôpitaux sont capables de répondre. La réponse est sûrement oui. C'est moins qu'un service de rein normal.
Ouais. Jean Cavazzo, est-ce que il y a un point, c'est est-ce qu'on peut trouver un vaccin? Il y a un médicament. Est-ce que ça existe? Vous disiez un vaccin, c'est vrai. Il faut quoi? Il faut 4 mois, 5 mois pour mettre au point un vaccin? 6 mois?
Là, c'est vraiment comment dirais-je je pensais le terme américain fast track. Donc on va très très vite. Donc tout le préalable a été dépassé. La période de 45 jours qui autrefois durait plus d'un an, on a des débuts de candidats vaccins. Alors il faut rajouter aussi que les Chinois sont très très bons et que les les Chinois sont maintenant dans les leaders mondiaux en virologie et qu'ils commencent à tester et des médicaments et des vaccins. Mais les Américains aussi sont sur différentes pistes possibles, soit des médicaments déjà existants, des anciens médicaments, on a évoqué probablement à tort, mais enfin peu importe, la Nivaquine, mais il y a d'autres médicaments qui, et notamment les Gilead, vous savez que cette société qui a découvert un remède contre l'hépatite C travaille, enfin quand vous regardez les grandes boîtes pharma mondiales, elles sont toutes sur ce sujet.
Dessus, mais ça ne sera pas avant quand même un certain laps de temps. Dans le meilleur des 4 mois.
Oui.
Et est-ce qu'il peut avoir une pénurie de médicaments? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, d'abord, toutes nos économies sont vraiment chino-dépendantes, hein, mais notamment les médicaments. Est-ce qu'on va vers une pénurie de médicaments, Jean Gervasoué?
Pour l'instant, non. À court terme, non.
Pas aujourd'hui, mais demain.
Ce qui est fascinant dans cette crise, c'est que ça révèle beaucoup de choses.
Oui,
ça révèle la division du travail mondial, et donc ça va nous amener, et vous avez vu la décision de Sanofi donc de partager ou de revendre une partie du capital de sa filiale avec les grandes pharma européennes pour fabriquer en Europe les principes actifs européens.
Cette division, c'est bien de ce point de vue-là, c'est une sorte de prise de conscience d'un coup de...
Ça aura d'ailleurs un effet carbone, je pense, très très élevé. On évitera de balader beaucoup de choses. La deuxième, c'est que ça révèle les pays. Donc ça révèle l'Iran. Qui continue à mentir, parce que c'est pas possible qu'on ait 90 morts et seulement 150 cas, donc il y en a au moins 1000. Ça révèle le commerce mondial. C'est pas étonnant que ça soit la Lombardie, parce que la Lombardie, qui est la zone industrielle de l'Italie, est en contact avec Wuhan, qui est une des grandes zones industrielles de la Chine. Et on voit également qu'en Italie, le lien entre les régions, parce que la politique régionale et l'État est assez faible, et donc ça a conduit à un certain nombre de... Donc tout ça est assez fascinant.
Et ce qui est aussi fascinant, c'est que on a l'impression qu'il est extrêmement volatile. On parle de la volatilité des marchés, surtout ici, mais on a l'impression qu'il est extrêmement volatile, cette espèce de rapidité avec laquelle il s'est répandu. C'est vrai que c'est un peu...
Parce qu'il y a eu, comme on dit toujours, des porteurs sains.
Oui.
Donc, beaucoup de gens, en plus, étaient asymptomatiques. Ils ont eu simplement ce qu'on a, une grippe, une toux, etc. Et donc, ces porteurs sains ont transmis le virus. On ne sait pas toujours où, on ne sait pas toujours comment, malgré toutes les enquêtes qui sont d'ailleurs aussi en France, je le signale, très bien faites. Donc, on essaye de comprendre comment ça se passe.
Ouais. Donc, il y aura vraiment un avant et un après, parce qu'on a sur le SRAS, le H1N1, concluant sur le avant-après. Là, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience à sa main des dernières questions.
Oui, dans beaucoup de domaines. Donc, encore une fois, dans le domaine industriel, le plus grand impact sera sûrement économique. Vous en parliez avant moi. Et là, les hypothèses des économistes toujours sont très pessimistes, notamment pour l'Europe.
Et oui, comme quoi, il y a beaucoup de choses pour l'Europe et qu'il faut que ça change. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Jean de Kervazoué, que vous pouvez lire dans nombreux magazines, l'ancien patron des hôpitaux de Paris. Voilà, donc nous, on se retrouve après le journal. On se retrouve avec Antoine Frérot, président de Veolia, aussi président de l'Institut d'entreprise. Qu'est-ce que les entreprises attendent, notamment des gouvernements? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Antoine Frérot, le président, le PDG de Veolia et président de l'Institut de l'entreprise. Encore une fois, merci d'être avec nous. Vous avez publié vos résultats, c'était fin de semaine dernière, ça c'était pour Veolia. Mais peut-être d'abord une question sur l'Institut de l'entreprise. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé ces derniers jours? Quelle perspective vous voyez pour les entreprises françaises? Et surtout, est-ce que les mesures que s'apprête à prendre peut-être Bercy vous paraissent aller dans le bon sens?
Alors, c'est une crise que je qualifierais de conjoncturelle, qui vient de l'extérieur de l'économie. C'est pas une crise structurelle comme on a eu il y a une dizaine d'années. On peut espérer que dans un an, il n'y aura plus de virus. Et que donc il y a un échauffement lié à cette crise. Je pense que l'économie française n'est pas fondamentalement plus mal qu'elle n'était avant le...
Ah oui, donc vous êtes beaucoup plus optimiste que ne l'est Bruno Le Maire, qui ce matin disait que ça avait un impact très, enfin, très fort.
Il y aura.
Et le CDE l'a dit aussi. Donc vous considérez que c'est qu'un épisode?
Oui, je le pense. Oui. Je le pense. On peut raisonnablement imaginer que le virus ne va pas durer éternellement, et que cette crise sanitaire ne va pas durer éternellement. Je pense qu'elle va être forte. Je pense qu'on n'en est que sans doute au début des conséquences dans notre pays. Je pense que effectivement, l'économie n'en sera pas structurellement profondément affectée.
Donc on ne voit pas, pour vous, les perspectives de baisse des... Enfin, je sais pas, l'OCDE qui abaisse quand même assez fortement ses prévisions. Pour l'instant, vous n'y croyez pas?
Si, mais ce n'est conjoncturel.
Ah non, mais d'accord, mais on peut tous morts, c'est conjoncturel aussi.
Donc l'économie n'est pas en mauvaise santé. Je pense que... Je prends le cas de Veolia, par exemple. Veolia, bon, c'est une entreprise qui a beaucoup d'activités en Chine. On a 15 000 salariés en Chine. Bon. Bon, tout d'abord, il n'y en a pas un seul qui soit malade aujourd'hui. C'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Bon, ça montre aussi que nos activités ne sont pas dans l'œil du cyclone. Nous n'avons pas d'activité.
L'activité en Chine pour Veolia continue.
Tous nos salariés opérationnels sont sur leur site de travail. Ils sont logés temporairement sur place pour éviter des déplacements domicile-travail. Les personnels fonctionnels sont en télétravail. Les usines fonctionnent. Alors, les réseaux de chaleur, bien évidemment, n'ont pas de conséquences. Ils sont dans le nord de la Chine où il fait très froid. Les réseaux d'eau non plus. Et sur nos installations de traitement de déchets, nous recevons des déchets un peu moins que ce que nous attendions, un peu moins que d'habitude.
Oui, mais ça a forcément un impact, là, parce que du coup, tout est à l'arrêt en Chine, non?
Parce qu'on reçoit 75% des volumes de déchets toxiques, donc il y a
75%
de production. Ouais. Donc c'est pas 100%. Bon.
Le
jour où la crise sera passée, car elle passera, cette crise, la production reviendra à son rythme d'avant. Nous aurons un peu de retard sur des chantiers de construction de nouvelles usines, mais ça aussi, à la limite, ça peut se rattraper. Mais en tous les cas, ce n'est pas structurel.
Comment vous protégez vos salariés en Chine?
Alors tout d'abord, ils respectent strictement les consignes que donnent les pouvoirs publics. Ils évitent les déplacements, ils portent un masque et ils sont logés sur place, sur les usines, pour éviter les trajets domicile-travail.
Oui. Est-ce que ce coronavirus, comme on ne connaît pas très bien, hein, ce virus, et surtout moi, je ne sais pas, on peut le retrouver dans les déchets que traitent justement vos salariés?
Non, je ne pense pas qu'on les traite. Je crois que non plus, j'y connais pas grand-chose en matière de virus.
J'imagine que vous avez posé la question.
Mais je sais que
vous apportez la réponse.
Ils ne résistent pas très longtemps à l'air libre. Hein. Ouais. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc non, il n'y a pas de danger avec les déchets.
Ah, d'accord. Est-ce qu'il faudra des mesures de soutien aux entreprises françaises?
Oui, je pense qu'il faudrait. Surtout que c'est conjoncturel là aussi. Donc c'est une mauvaise passe à passer. Et une fois que la passe est passée, ça repart comme avant. Donc il faut effectivement les aider à passer cette passe.
Oui. De quel ordre? Enfin, c'est juste... Parce que là, on sait qu'il n'y aura pas de pénalité de retard. On a appris ce matin, mais il faut vérifier, on ne sait pas très bien quoi, comment, que des prêts seront garantis par la BPI.
C'est surtout des problèmes de trésorerie. Il faut assurer la trésorerie des entreprises, la trésorerie qui va leur manquer pendant les périodes de crise. Et donc, il faut leur assurer la trésorerie et leur prêter ça avec très peu de taux d'intérêt.
Toute dernière question là-dessus. Vous sentez parmi vos homologues, est-ce qu'il y a une sorte de, dans quel état d'esprit, de nervosité?
Ça dépend un petit peu des secteurs, bien évidemment, mais je les sens comme je me ressens moi-même. Oui. Donc, une mauvaise passe à passer, mais seulement une passe.
Alors, il y a une passe qui est une période qui est passée, il y en a une autre qui s'ouvre pour Veolia, cette fois-ci, puisque vous avez annoncé un nouveau plan stratégique Impact 2023. Donc, c'est tous les 4 ans. Là, vous avez terminé le plan précédent, qui était presque un peu une remise en ordre, j'ai envie de dire, de Veolia. On peut dire ça comme ça, une clarification, si vous voulez. Et puis là, vous passez à l'offensive dans peut-être des nouveaux secteurs. Il faut dire que les contraintes environnementales ont complètement changé. Donc, pour vous, évidemment, c'est un impact, parce qu'on va rappeler quand même, vous êtes le numéro un mondial de tout ce qui est traitement des eaux, gestion des déchets.
Oui, c'est un nouveau contexte particulier.
Oui, oui.
Et jamais la priorité environnementale n'a été aussi forte. Alors bien évidemment, ceci oriente notre programme stratégique pour les 4 ans qui viennent, avec tout d'abord une priorité, faire en sorte que chacune de nos activités apporte l'impact maximum sur le plan environnemental. Et nous avons l'ambition de faire de Veolia l'entreprise de référence pour la transformation écologique. Ça suppose donc...
Attention, ça coûte, attention à votre siège. Ça a coûté très cher à Isabelle Kocher qui a essayé de faire ça chez Engie. Attention à vous, Antoine Frérot.
Oui, mais nous avons au cours des 8 dernières années montré, prouvé que nos discours étaient suivis d'actions, de réalisations et de résultats. Et ce que nous allons encore faire au cours de ces 4 prochaines années. Apporter l'impact maximum sur chacune de nos activités, ça veut dire accélérer vigoureusement certaines d'entre elles, mais ça veut dire également faire des choix. Choisir des priorités et donc également modifier un petit peu notre portefeuille d'activités.
Alors justement, rentrons dans le... D'abord, année 2019, vous avez quand même sorti des chiffres, chiffre d'affaires en hausse de, 4, de plus de 4% à 27 milliards, à peu près en ligne avec ce que vous aviez dit. Une rentabilité...
Même un peu mieux.
Une rentabilité qui tient bien, qui tient ses objectifs. Vous revenez de loin, on va quand même rappeler à ceux qui ne suivent pas forcément Veolia. Niveau d'endettement.
Il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'endettement.
Oui.
Il y a eu d'abord un premier plan de 4 ans qui a redressé l'entreprise, qui l'a transformée, qui a divisé l'endettement par deux. Et puis il y a eu un deuxième plan qui s'est terminé la fin de l'année dernière, qui était plus qu'un plan de redressement, qui était un plan, une fois que l'entreprise était redressée, pour montrer que cette entreprise pouvait créer une croissance solide, des résultats encore supérieurs, sans augmenter les capitaux employés, sans augmenter la dette. Et c'est de là que nous sortons.
C'est pour ça que j'ai des clarifications aussi sur oui. vos métiers. Voilà.
Là, nous rentrons dans une nouvelle phase, avec des choix plus vigoureux, plus affirmés. L'accélération forte sur un certain nombre de domaines, comme par exemple le traitement des déchets toxiques, principal poison pour la nature, mais aussi le recyclage des plastiques ou bien l'efficacité énergétique. Et dans d'autres segments où nous allons ralentir l'activité pour pouvoir financer la première.
Oui. Choix. Aujourd'hui, on va peut-être le voir pour ceux qui nous regardent à la télévision. Donc l'eau représente combien à peu près aujourd'hui?
32%, 35% de nos activités.
Les déchets?
Petite trentaine.
Oui. Et puis après, l'énergie, ça, c'est un petit peu moins de 30% parce qu'il y a d'autres métiers. Hein, donc, quelle est votre priorité? Vous restez un géant du traitement de l'eau. Quelle est votre priorité?
Ce qui a le plus d'impact sur l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'impact, ce qui a le plus d'impact sur l'environnement? C'est les activités de traitement des pollutions les plus dangereuses pour la planète et les plus difficiles à traiter. Deux d'entre elles, par exemple, les déchets industriels toxiques et des émissions de carbone. Et la priorité va être mise là-dessus. Alors, l'activité de l'eau, elle participe de cela. L'eau très sale, avec des déchets industriels dedans, ce sont des déchets toxiques. Et puis, l'eau à service d'eau consomme de l'énergie, et donc il y a des voies pour diminuer la consommation d'énergie, et donc diminuer les émissions de carbone. Les eaux usées produisent des boues, des déchets organiques avec lesquels on peut soit produire de l'énergie, soit même fabriquer des engrais biologiques, des fertilisants. Donc toutes nos activités ont un rôle.
Mais oui, mais est-ce que l'eau, votre métier traditionnel, en plus vous avez fait cette grosse acquisition aux États-Unis, est-ce que ça reste aujourd'hui, est-ce que ça reste votre priorité?
Ça reste une priorité, tout à fait. Surtout que nous percevons un nouveau signal qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. De nouvelles grandes villes dans le monde s'adressent à nous en disant nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui de la manière dont notre service d'eau municipale est géré. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Et ça, on n'avait pas vu depuis 10 ans.
Qu'est-ce qui ne rentre plus dans votre périmètre?
Les activités...
Vous avez annoncé la décision des acquisitions en disant on les a déjà identifiées. Donc allez-y, dites-le nous.
Et alors on a même commencé à céder. Oui. Des activités matures pour nous, celles sur lesquelles nous n'avons plus de voie pour créer de la richesse. C'était le cas de réseaux de chaleur aux États-Unis où nous avions raccordé tous les bâtiments possibles et nous n'avions plus de possibilité de créer vraiment de nouvelles richesses. Il y en a d'autres qui sont cédées. Et puis, il y a des activités que nous exercions il y a quelques années, mais qui se sont banalisées. Le contenu technique n'est plus assez sophistiqué. Beaucoup de nouvelles entreprises s'y mettent, beaucoup plus concurrentielles, notamment des entreprises asiatiques. la construction d'usines où il y a beaucoup plus de béton que de techniques de traitement d'eau, par exemple. Ou bien de la collecte de déchets sans prestation de traitement de ces déchets, ou mieux, de recyclage de ces déchets. Là où nous faisons juste de la collecte. Voilà des activités sur lesquelles Veolia ne peut pas avoir beaucoup d'impact, ou pas plus d'impact que les autres. Celles-là nous intéressent moins. Il y en a d'autres où nous avons des savoir-faire rares.
Montant de cession à peu près de l'ordre de combien ?
Sur les 4 ans, 3 milliards.
D'accord. Et les acquisitions ?
5 milliards de développement, dont une partie d'acquisition, une autre partie de création de nouvelles usines, de nouveaux équipements. Donc il y a l'investissement industriel de croissance.
Est-ce que vous avez indiqué que 60% du programme d'investissement sera dans des nouveaux projets ? Ça veut dire quoi, dans des nouveaux projets ?
On a indiqué que nous aurons 5 milliards d'investissement de nouveaux projets. En plus des projets, des activités existantes.
D'accord. Okay. C'est pour ça que je ne comprenais pas.
Et ces investissements, elles seront consacrées à 40% en Europe, 60% hors d'Europe. Beaucoup auront trait à notre clientèle industrielle, qui continue à être plus demandeuse que notre clientèle municipale, même s'il y aura un tiers pour nos activités municipales.
Parce qu'en fait, parce qu'on parle beaucoup avec cette crise, on dit beaucoup que c'est un peu la fin de la mondialisation, qu'on est rentré dans une période de démondialisation, de relocalisation des activités. On en parlait à l'instant sur tout ce qui est l'industrie pharmaceutique, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement dépendant de la Chine. Vous, en fait, vous avez des métiers qui sont assez locaux, puisque vous êtes près de vos clients. Vous n'allez pas faire un traitement de déchets d'une ville en Inde à partir de la France, évidemment.
Non, nous sommes une entreprise de services, tout d'abord, et de services délivrés localement.
Oui, localement, oui.
Les conséquences, d'ailleurs, de ces services ne peuvent se mesurer que localement. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème de chaîne de valeur, par exemple, d'opération domino avec les chaînes de valeur, comme certains industriels peuvent l'avoir. Donc, nos activités sont locales, et elles suivront l'évolution démographique de ces pays ou de ces villes et la progression de leur évolution industrielle.
La grande question, parce qu'on voit bien que vous avez enfourché la couleur verte, Antoine Frérot.
Veolia, c'est la première entreprise des services à l'environnement depuis longtemps, la première entreprise
au monde. Mais maintenant, vous mettez en avant le côté de la croissance verte, tout ce qui est...
aller plus vite.
Pour le peindre en vert, mais enfin, en même temps, il y a une réalité derrière. Est-ce que vous êtes suivi par les investisseurs ? Parce que c'était du reste tout le débat qu'il y a eu à Davos, tout le débat aussi à propos de ce qui s'est passé chez Engie, c'est de savoir s'il y avait les investisseurs, les actionnaires étaient prêts à suivre et à attendre, parce que parfois les résultats ne sont pas tout de suite au rendez-vous. Vous, quelle a été leur réponse et quelle est votre réponse, Antoine Frérot ?
Alors tout d'abord, ma réponse, c'est que le rôle d'une entreprise est plus large que seulement créer des profits pour ses actionnaires.
Ah oui, mais enfin, c'est quand même ça, la réalité, vous le savez mieux que moi.
Je ne suis pas d'accord avec vous, et je peux témoigner que nombre d'investisseurs l'ont désormais compris. C'est-à-dire qu'une entreprise doit servir tous ses publics, tous ces publics qui s'engagent à ses côtés. Bien sûr, il y a les actionnaires, il y a les salariés, il y a les clients, il y a la planète, il y a même la société en général. Et aujourd'hui, les investisseurs sont de plus en plus attentifs à ce que nous proposons, notamment pour la planète, et j'espère progressivement pour l'ensemble de ces publics.
On va prendre l'éternel débat sur le prix de l'eau. Le prix de l'eau, c'est trop cher, notamment parce que vous le vendez trop cher. Si on veut que tout le monde ait accès à de l'eau potable, eh bien, à ce moment-là, il faut peut-être baisser le prix de l'eau. J'imagine que vous n'êtes pas prêt.
Toutes les villes où Veolia distribue l'eau, cette eau est accessible à tous les habitants, y compris les plus modestes. Et pour ceux qui ont de réelles difficultés pour en assurer le prix, cette eau est gratuite pour eux en France, Madame Chevrillon. Elle est payée par les autres consommateurs. Il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en place pour assurer la solidarité. Donc ceci est déjà le cas sur les réseaux où nous travaillons.
Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on ne paye plus le prix de l'eau ?
Mais de toute façon, il y aura
quelqu'un paye les investisseurs. Oui, il y a un coût.
Quelqu'un le paiera. Oui. Alors, ça sera peut-être le contribuable. Il y a des pays où ce n'est pas que le consommateur qui paye le prix de l'eau. Mmh. Que le prix est réparti entre le contribuable et le consommateur. L'Union européenne a décidé que les consommateurs européens devaient assurer, à travers les factures, même s'il y a des phénomènes ou des systèmes de solidarité, le coût de l'eau par le prix de l'eau. Aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne correctement. Les consommateurs européens, et les Français sont exactement dans la moyenne, consacrent 0,7% du budget moyen d'un ménage à son service de l'eau, contre 8 ou 9% pour le service de l'énergie, ou 3 ou 4% pour le service de téléphone. Donc, le service de l'eau, et y compris le traitement des eaux usées, est encore très accessible en Europe.
Déchets nucléaires, pour vous, c'est... Bah, on vient bien la fermeture de Fessenheim, mais pour vous, c'est un vrai business, hein, les déchets nucléaires.
Ah bah, je vous disais tout à l'heure que la pollution toxique, c'était notre spécialité, là où nous voulions accélérer. Donc, bien évidemment, le traitement des déchets radioactifs et le démantèlement des sites nucléaires, c'est aujourd'hui, désormais, une spécialité de Veolia.
Il faut dire qu'il y a un gros marché en France, hein, mais pas seulement. Sauf Fessenheim, vous êtes sur Fessenheim?
Non, parce qu'en France, vous savez, on a fermé une vingtaine de réacteurs nucléaires, les vieux de la première génération. Graphite gaz, il y a maintenant une vingtaine d'années. Ils sont fermés, ils sont encore à démanteler ceux-là. Donc nous travaillons d'abord et avec EDF, en partenariat avec EDF, sur ces vieux réacteurs, et notamment celui de Chinon, qui sera le premier à être démantelé.
Il faut combien de temps pour démanteler un réacteur nucléaire?
Je vous donne par exemple le calendrier de travail Chinon, que nous avons sur Chinon. En 2022, nous livrerons avec EDF le pilote de démantèlement, et en 2028, le démantèlement aura largement commencé. Le pas de temps dans le nucléaire, c'est pas le même pas de temps que dans les autres métiers.
Non, ça c'est sûr. Donc Fessenheim, ça sera pas démantelé avant? Je sais pas, les calendes grecques.
Ça, je peux pas vous répondre puisque c'est EDF qui décidera. On va démanteler les 20 premiers avant de démanteler le dernier qui s'arrête.
Très intéressant ça, parce que vous voyez, on n'a pas forcément ça en tête. Donc ça veut dire qu'il y a encore 20 réacteurs à démanteler en France avant Fessenheim. Mais c'est un métier que... Donc en France, on voit bien qu'il y a un nouveau créneau. Il y a un créneau. Dans les autres pays aussi, c'est quelque chose qui se développe beaucoup.
En tous les cas, les Allemands ont arrêté leur centrale nucléaire, les Japonais, beaucoup d'entre elles. Et puis les Américains et les Anglais ont arrêté des centrales et il faut les démanteler. Mais... En plus de démanteler les centrales, lorsque vous voulez rénover ces centrales, lorsque vous voulez prolonger la durée, il y a toute une série d'équipements qui sont contaminés, qu'il faut enlever pour mettre des neufs. Là aussi, le grand carénage de nos centrales nucléaires en activité est une activité de traitement de ces déchets également. C'est les Américains qui dépensent le plus, curieusement, aujourd'hui, pour le démantèlement de leurs sites nucléaires. Essentiellement des sites, d'ailleurs, de recherche avant les centrales.
Sur les déchets toxiques, les déchets nucléaires, est-ce qu'un jour on ne pourra pas trouver, parce que c'est le principal argument, notamment des Verts, mais pas seulement, mais pas que, par rapport au nucléaire, qui est quand même l'énergie la plus bas carbone qu'on ait, est-ce qu'il n'y aura pas une solution pour qu'on arrive à les retraiter complètement et pas les enfouir sous la terre? Est-ce qu'un jour, il y aura une solution ou pas?
Alors tout d'abord, ce qui est reproché au nucléaire, c'est d'abord le risque.
Oui, il y a ça, mais pas seulement.
Très faible probabilité, mais très grosse conséquence. Et puis, il y a les déchets de forte intensité, très fortement radioactifs. Nous sommes spécialisés dans le traitement des déchets faiblement ou très faiblement radioactifs.
Mais est-ce que vous avez une réponse sur les fortement...
Pour traiter ces déchets, il faut enlever la radioactivité, souvent par décapage, donc concentrer considérablement la pollution. Lorsque c'est enlevé, le matériau qui a été contaminé peut sortir, il est décontaminé, et il faut la concentrer. Une fois qu'elle est concentrée, il faut l'inerter, l'enfermer dans une matrice de verre, par exemple, et c'est ces matrices-là qui seront enfouies très profondément. Donc il restera de l'enfouissement, mais l'important, c'est donc diminuer considérablement les volumes.
Raison d'être, c'est un peu quelque chose d'important. Vous êtes assez précurseur chez Veolia sur votre raison d'être, qui est de rendre tout ce qui est meilleur pour la planète. Le libellé exact étant la raison d'être de Veolia.
La raison d'être de Veolia, c'est pas un slogan, la raison d'être.
Il y a un côté un peu slogan quand même.
Non, justement, j'aimerais qu'on corrige cette idée-là. Nous avons une mission. C'est ressourcer le monde. Mais la raison d'être, c'est bien plus que ça. La raison d'être, ça explique pourquoi notre entreprise est utile, à quoi elle est utile, comment elle veut être utile. Ça s'explique pas en trois mots. Donc il y en a deux pages chez Veolia. Mais il est important d'expliquer à quels grands enjeux du monde l'entreprise veut contribuer, et surtout comment elle veut le faire. Et c'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère. C'est parce qu'elle continuera à être davantage utile demain qu'elle sera davantage prospère. C'est pas l'inverse. Et c'est ça la raison d'être. Et c'est pour ça que notre raison d'être a servi de boussole, de guide pour construire de nouveaux programmes stratégiques.
Il y a peu d'entreprises qui ont... Enfin, ça commence à venir. Parfois, elles sont un peu abscons, ces raisons d'être. On a l'impression que s'il faut le faire, on le fait. Vous, ce qui peut être intéressant, si vous avez une raison d'être et que ça vous sert, c'est ce qui a sous-tend votre stratégie.
C'est C'est pour ça que ça doit exister, une raison d'être. Et en plus, ça ne doit pas seulement rester un discours ou même une boussole. Il faut qu'elle rentre concrètement sur le terrain. Une bonne manière, la manière donc que nous avons choisi ces Veolia, c'est de définir toute une série d'indicateurs de performance pour nos différents publics, et que ça sera sur ces indicateurs, et pas seulement sur des indicateurs financiers, que les cadres du groupe se recevront leur rémunération variable.
Ah ben voilà, ça c'est un point important, à mon avis, c'est la meilleure façon de faire changer les choses. Merci beaucoup Antoine Frérot d'avoir été avec nous, donc le président de Veolia, avec sa raison d'être, c'est vraiment quelque chose, un impact stratégique, en tous les cas c'est ça que vous nous avez démontré, aussi président de l'Institut de l'Entreprise. Voilà, c'est la fin de l'RH. On se retrouve demain matin, en matinale, je recevrai le ministre de la Culture et tous les enjeux autour de la production de Netflix et la loi sur l'audiovisuel. Et puis, bien sûr, on se retrouve dans l'RH 12h-13h. Bonne journée.